Ok, donc nous continuons notre étude concernant la famille. Et comme je vous ai proposé, c'est au fur et à mesure que les sujets sont soulevés dans le texte biblique que je vais aborder les sujets. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 5 et 6. On va toucher aussi un petit peu chapitre 4 et peut-être aussi 7, 8 et 9. Mais c'est surtout chapitres 5 et 6. Donc, j'aimerais bien que vous tourniez dans Genèse chapitre 6. Et nous allons lire ensemble, enfin, je vais lire les versets 1 à 7. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Prions. Père Céleste, encore, je demande que tu nous aides à comprendre ta parole et les besoins que nous avons dans le domaine spirituel et familial. Donc, Seigneur, que tu nous instruis de par ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'autre jour, quand j'allais en ville pour faire des photocopies, j'ai entendu un bruit, et puis je regardais, et puis il y avait des gens qui couraient, et voilà, il y avait un jeune, disons à peu près 17 ans, qui était renversé sur son moto. Hier, en revenant sur mon vélo, eh bien, il y avait une foule de monde là, à un certain endroit, à Limay, et je suis allé voir, et justement, quelqu'un avait doublé, et il y avait une collision face à face. Et puis, je crois qu'il y avait une mort. D'ailleurs, le jeune, il était inconscient. Il n'était pas mort, mais il était inconscient qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. On a tous entendu dans les informations de ces plusieurs jeunes filles de 6 à 13 ans qui étaient assassinées par un chrétien, aux États-Unis. Donc, un chrétien qui était en colère avec Dieu. Donc, il a choisi le groupe pour lui représenter les meilleurs chrétiens pour frapper Dieu. Et donc, il a tué plusieurs enfants dans cette église-là. La violence. On apprend que ceux qui subissent des violences et des abus dans leur enfance, eh bien, ils vont les reproduire plus tard. Donc, si c'est une personne qui est abusée, qui a peut-être 4 enfants, donc il y a 4 enfants abusés, il n'y a plus un, il y a 5, hein? 1 plus les 4. Et si les 4 ont 4 enfants, donc il n'y a plus 1 ni 5, mais enfin, il y a maintenant 20, et ça se propage. Donc, c'est terrible ce qui peut se produire. Et ici, dans Genèse chapitre 6, nous sommes face à une population, une race humaine perdus et incrédules. Et ce que dit le texte biblique, c'est que cette peuple incrédule se permettait, donc s'élançait vraiment dans la sensualité, dans l'immoralité, et peut-être je devrais dire l'amoralité, parce que pour eux, comme les Français, il n'y a plus question de moralité. C'est quoi moralité, immoralité? On n'a pas. C'est l'amoralité, la moralité n'existe plus. Et donc j'imagine que c'est ça qui est arrivé là. Et la violence, c'est très vaste, cette idée de violence. Donc on ne va pas définir, mais selon comment on définit le mot, par exemple cette personne qui n'a pas peut-être eu le droit à doubler à ce moment, parce que c'est une ligne, c'est un peu, hein, il faut être là vraiment, et Dieu seul sait vraiment tous les détails, mais hein, il y a des lignes blanches qu'il ne faut pas traverser, mais une personne qui dit, ah, oh, mais je peux le faire, et puis, ce n'est pas une violence. Il avait cette attitude égoïste qu'il était au-dessous de la loi, il pouvait violer la loi, et puis, voilà, il tuait. Combien de personnes? Il y avait trois voitures dans l'accident. D'accord? Donc, c'était une époque de violence. Et quand on regarde, bon, premièrement, je vais expliquer un petit peu le texte. Donc, on parle de la population qui se répand sur la terre. J'interprète, donc, les fils de Dieu. Donc, Dieu a créé, premièrement, Adam. Et de Adam, il a créé Ève. Donc, les fils de Dieu, c'est les hommes, et les filles des hommes, c'est les femmes. D'accord? Je n'interprète pas les anges et les choses bizarres comme quelques personnes. Je pense que c'est très évident que les hommes et les femmes, c'est tout ce qu'il y en a. Il n'y a pas d'autres espèces. Et donc, le point ici, c'est que ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, un rabbin qui m'a donné des cours de hébreu à l'époque m'a expliqué que voilà, ce n'était plus, on a pris une femme et on était contente avec elle, mais on voyait une femme et disait, tiens, on va coucher ensemble. Donc, c'était l'idée de l'immoralité, amoralité, immoralité. Les 120 jours, c'est le temps que Dieu donne avant qu'il va terminer tout. Les 120 ans qui restent à l'humanité. Ce n'est pas que la limite de la vie sera à 120 ans, parce qu'à cette époque-là, il y avait, et encore par la suite, les gens qui vivaient bien au-delà de 120 ans. Et aujourd'hui, c'est rare que quelqu'un arrive à 120 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Hein? Pour nous, c'est 70, 80, des fois 90, mais c'est surtout dans le limite des 70. Donc, ça fait un peu rigoler quand on lit dans le verset 4, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, c'est le livre le plus ancien de la Bible qui vient pour nous de l'Antiquité. Et lui parle de l'Antiquité, vis-à-vis de l'Antiquité. Ça fait un peu rigoler. Hein? Mais bon, il parle de, dans les temps très anciens pour nous. Et donc, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour et uniquement, vers le mal. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Il y a encore quand même des personnes qui ne pensent pas au mal tout le temps. Hein? Peut-être de temps en temps. Il y a certainement des gens qui pensent tous les jours et tout le temps. Mais on a quand même quelques personnes qui ne sont pas aussi loin que ça. Mais les choses qui sont présentées ici sont surtout des problèmes, on va dire, à la fois spirituels et familiaux. Hein? Comme le verset que je viens de lire, ce sont des problèmes du cœur, que les gens, ils sont portés vers les péchés. Ils poursuivent comment est-ce que je peux faire encore du mal? Qu'est-ce que je peux faire encore pire aujourd'hui qu'avant? Donc, j'ai dit que ce sont des problèmes à la fois spirituels et familiaux. Parce que d'un côté, c'est dans l'esprit, c'est dans la nature humaine de faire le péché. C'est ça que dit le verset 5. Que dans la pensée des cœurs, il y a cette idée de faire le mal. Donc, c'est dans l'esprit humain. Mais, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, c'est les parents qui doivent veiller à ce que leurs enfants ne manifestent pas le mal. C'est les parents qui doivent entraîner leurs enfants à savoir « je peux faire ça et je ne peux pas faire ça ». Les parents qui doivent dire aux enfants, qui doivent apprendre aux enfants de respecter les autres, de respecter les biens des autres. Donc, par exemple, chez nous, j'ai dit toujours à mes enfants, parce que c'est vrai, hein, on a cette chose-là, bon, disons cette guitare. Si vous le respectez et vous prenez bien soin, on aura cette guitare longtemps. Si c'est cassé, on n'aura pas l'argent pour le remplacer. C'est fini. Parti. Donc, que faire? L'enfant va apprendre, s'il voudrait jouir de cet objet, que ce soit un ordinateur, une télévision, une radio, un vélo, n'importe, eh bien, il va prendre soin de cette chose-là. Autrement, ça n'existera plus. Ça serait cassé et fini. Hein? Bon, ça c'est à ses propres affaires, aussi pour les affaires de les frères ou les sœurs, mais aussi pour les affaires à l'école, ou à l'église, ou à la mairie, etc. Ça va très loin. Est-ce que vous me suivez? C'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants à gérer leurs désirs qui peuvent être même malsains. Donc, ils doivent apprendre à ne pas manifester certaines choses, comme par exemple la colère. Les enfants ne doivent pas être permis d'exprimer la colère. Le petit bébé qui pleure parce qu'il a faim, on comprend, il a faim. Je veux manger. Mais le petit bébé qui, pour quelque raison, est en colère, il dit, mais je parle des petites, hein. C'est un cri différent. Alors le petit, ça lui dit, on n'accepte pas ça. Et puis tout de suite, l'enfant comprend. Même quand ils sont petits, ils comprennent que certaines choses sont acceptables et d'autres choses ne le sont pas. Je n'ai pas dit de faire du mal à votre enfant, attention. Simplement à faire comprendre, ça n'est pas acceptable. Et donc, c'est aussi la responsabilité des parents d'amener leurs enfants à la nouvelle naissance, afin qu'ils ne soient plus gérés par ces désirs malsains de faire ceci et cela, mais qu'ils ont en eux la vie de Dieu qui les permette d'aller au-delà de ce qui est naturel et de vivre sur un niveau de vie qui est agréable à Dieu. Alors, cette éducation doit être verbale, donc les parents doivent communiquer en parlant à leurs enfants. Cette éducation doit être disciplinaire. Quand les enfants enfreignent les règles, il faut les punir. Vous savez, le gouvernement ne va pas. Bon, en France, c'est un peu difficile. Ils ont dit aux informations, oh, le premier deux ou trois fois qu'un enfant commet un crime, on les laisse libres. Et c'est par la suite qu'on va les incarcérer. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi dire c'est pas un problème, vous êtes allé là, vous avez volé tel magasin avec une arme à feu. Et puis bon, c'est la première fois, bon, on vous laisse, c'est pas un sourcil, on vous donne un sourcil, c'est bon. Allez, faire ça encore deux, trois fois, et après on va vous mettre en prison. Ça, c'est pas le bon enseignement, voyez? Donc, on va pas suivre cet exemple-là. L'exemple à suivre, bon, nous, quand on était, quand on avait des petits enfants, donc, on disait, un, deux, trois, un, deux, trois. On a appris par la suite, si on dit cinq, ils acceptent cinq. Si on dit 3, ils acceptent 3. Si on dit 2, ils acceptent 2. Si on dit 1, ils obéissent tout de suite. Parce que les enfants ne sont pas bêtes. Ils savent bien, vous n'allez pas obliger de respecter une règle avant que vous dites 3. Hein? Donc, S'ils savent que c'est une, un, bah, ils respectent ça aussi. Mais c'est à vous de leur apprendre. Alors Benjamin, là, il était un peu différent parce qu'il voyait quand les autres avaient le fessé. Et j'avais cette méthode. Il ne faut pas dire à tout le monde. Hein. Alors j'avais une ceinture. Vous ne pouvez plus faire ça. C'est illégal maintenant. À l'époque, ce n'était pas légal, maintenant c'est illégal. Mais j'avais une ceinture pour cela, mais une assez grande ceinture. Et je faisais toujours un grand claquement, un bruit. Paf! Quand je l'ai donné un fessé. Et puis ça donnait déjà peur. Même à ma femme. Et par la suite, donc les enfants, ils savent que quelque chose va arriver. Donc j'ai donné un fessé, mais c'était pire. Maintenant qu'ils avaient entendu ce grand bruit. Mais en fait, ça ne faisait pas autant mal que le bruit. Le bruit, ça donnait le plus. Donc, la discipline doit avoir lieu. Alors, des fois, ma femme dit, « Mais c'est pas mal à mes enfants! » J'ai jamais fait mal à mes enfants. À mon optique. Mais, bon, les femmes sont plus sensibles. Alors, les femmes qui sont plus sensibles, laissez faire les papas. Parce qu'ils sont moins sensibles. Il faut que papa ne doit pas faire le mal aux enfants. Et on avait, au fur et à mesure, fixé des diverses règles, même pour que moi, je me restreins. Donc, on prenait à une certaine époque une baguette de bambou. Comme un crayon à papier, épais comme ça, puis long comme ça. Et puis, on a expliqué aux enfants, écoute, vous enfreintez des règles, on va vous donner, moi, je vais vous donner 3 coups avec cette baguette. Paf, paf, paf. Mais pas 5, pas 10, pas 100, 3. Donc, ils savaient les règles, moi, je savais les règles aussi, je ne pouvais pas aller au-delà de 3, et eux savaient qu'ils allaient avoir 3. Alors, j'allais dire pour Benjamin, quand il entendait la paf, il faisait comme ça, et puis, il ne faisait absolument rien qui aurait pu entraîner une punition. Donc, il n'apprenait pas la discipline. Parce qu'il avait peur de la punition, donc il ne faisait rien de mal. Mais ce n'était pas parce qu'il avait appris à faire le bien. Donc, ça me gênait beaucoup. Je n'arrivais pas à l'attraper pour le discipliner, pour l'expliquer comment respecter les règles. Donc, il fallait que je travaille pour trouver une moyenne justement pour le tromper, disons, pour qu'il fasse une erreur, et puis j'ai pu le discipliner, et puis il a su par expérience qu'il faut respecter les règles. Désolé, Benjamin. Mais il faut que les enfants apprennent, parce que plus tard, tôt ou tard, la discipline du gouvernement va tomber. La discipline de la société. Alors, s'ils ont vécu toute leur volonté, leur jeunesse, et puis un beau jour, qu'est-ce que c'est ça? On va me punir parce que j'ai volé ou parce que j'ai tué ou je sais pas quoi. Non, c'est à nous les parents de les apprendre qu'il y a des règles à respecter. Mais encore plus, les parents doivent donner le bon exemple. Les parents doivent donner le bon exemple. Parce que tout le monde apprend par l'exemple. Moi, je dois apprendre un nouveau système pour l'assurance médicale américaine. Et donc, ce matin, je lisais, il y a 50 pages de lire. Et donc, je me suis dit, je vais téléphoner à telle personne et il va me dire ce qu'il fait. Il va me donner son exemple. Ah, c'est tellement plus facile à prendre par l'exemple d'une autre personne expérimentée dans quelconque sujet que de devoir lire des livres et puis essayer de comprendre et puis de mettre en pratique tout ça et faire toutes les fautes et tout ça. Donc, les parents, il donne l'exemple. Si vous vous fâchez entre parents et vous criez l'un après l'autre, eh bien, ne soyez pas étonné que les frères et sœurs vont crier l'un contre l'autre. Ou si vous vous tapez, eh bien, ou ils vont se taper. Ou s'ils sont à l'école et notre enfant ne fait pas la volonté de votre enfant, il va taper. Ou, donc, quelconque exemple que vous aurez donné, il va la faire. Si vous utilisez les gros mots, les enfants, vous utilisez les gros mots. Peut-être pas devant vous. Parce qu'ils savent que vous avez dit qu'il ne faut pas le faire. Mais vous le faites. Et donc, ailleurs, ils vont utiliser les gros mots. Vous voyez? Donc, notre exemple est très important. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même pour les questions financières, et pour toutes les choses. Et aussi, donc, c'est aux parents de donner l'instruction religieuse. Donc, évidemment, nous venons ici à l'église. Nous faisons le culte ensemble. Mais c'est les parents qui choisissent l'église. C'est pas l'église qui choisit les parents. Hein? C'est les parents qui disent, nous voulons que nos enfants soient à l'église. Donc, mes parents, quand j'étais petit, ils nous mettaient dans le car qui emmenait les enfants à l'église et eux, ils restaient à la maison. Qu'est-ce que ça dit aux enfants? Parce qu'on n'est pas bêtes, nous. Ils disent, les parents pensent que ça ne vaut pas la peine de venir. Alors, au fur et à mesure, on commence à dire aussi, ben, ça ne vaut pas la peine de venir. Vous voyez? Donc, c'est les parents qui décident ces choses-là. Et beaucoup de ça se passe par l'exemple. Alors, dans l'exemple que nous avons devant nous, eh bien, ça semble qu'il n'y a que Noé qui a su gérer sa famille. Et puis, même là, il y a des questions. Il n'y a que Noé, à ce moment-là, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et les autres? Hein? Regardez dans le chapitre 5. Là, dans le chapitre 5, Genèse chapitre 5, nous avons l'enregistrement des noms des ancêtres humains du Seigneur Jésus-Christ avant le déluge, jusqu'à Noé. D'accord? Et à travers ce chapitre, nous voyons que l'incrédulité a gagné l'humanité. Les parents n'ont pas su communiquer la foi à leurs enfants. Hein? Regarde, quand Noé est là, et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il y avait quand même son père qui était là, Lémec, qui est au verset 28, Lémec. Et puis, dans le fin du verset 30, il dit, il engendre les fils et les filles. Il n'y avait pas que Noé qui était l'enfant de Lémec. Où sont ses frères et sœurs? Là, quand l'arche, la porte est fermée et l'humanité va être engloutie par cette grande déluge, où sont les frères et les sœurs? Où sont les neveux et les nièces de Noé? Ils sont là dans les masses de l'incrédulité. Et son grand-père, Methuselah, qui aussi avait engendré des fils et des filles, donc les cousins, des cousins de Noé et leurs enfants et tous ces gens qui étaient les enfants et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de tous ces hommes de la foi, même Enoch au verset 21. Enoch qui aussi engendrait des fils et des filles. Il y avait toute une terre des gens qui avaient des parents, on va dire dans un sens très large, chrétiens, hein, croyants de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Si je dis ça très large, donc faut pas me gronder trop. et leurs enfants, leurs descendants, pourquoi ils ne sont pas croyants? Pourquoi ils étaient tous engloutis dans le déluge? Parce que les parents n'ont pas su communiquer leur foi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Enoch, il dit, marcha avec Dieu, au verset 24. Puis, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il était enlevé, comme nous croyons, dans l'avenir, il y aura l'enlèvement de l'Église, des croyants en Jésus-Christ. Et Enoch est le premier exemple dans la Bible d'un tel événement. Il y a encore un autre exemple dans l'Ancien Testament de cette même chose. Donc, il y a deux exemples dans l'Ancien Testament pour la doctrine qui est enseignée dans le Nouveau Testament. Alors, cet homme qui marche est tellement près de Dieu, que Dieu n'a même pas voulu qu'il passe par la mort. Et ses enfants sont allés où? Vous voyez? C'est un problème. Leurs enfants étaient occupés du monde. Leurs enfants étaient occupés de ce qui était temporel. Leurs enfants étaient intéressés par la richesse. Leurs enfants ont certainement participé dans ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 6, qu'il n'y avait, que les gens ne pensaient plus tous les jours, que tous les jours, ils ont pensé du mal qu'ils pouvaient faire, la violence, l'amoralité, l'incrédulité. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et ça nous amène à le dernier point que je voulais partager aujourd'hui, c'est cette question de la mort. Parce que, vous savez, la mort, c'est un des points fondamentaux dans la Bible. C'est que le péché entraîne la mort. Déjà en Genèse chapitre 4, Adam et Ève qui ont péché en chapitre 3, leur fils est tué en chapitre 4. La mort est déjà là au sein de la famille. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que nous enseigne la parole de Dieu. Que ça concerne moi-même, vous-même, nos enfants, etc. Le salaire du péché, c'est la mort. La personne sur la route, là, à Limay, hier, il a transgressé les règles et puis, il y avait des morts. Transgressé, donc les lois, et puis, par la suite, à l'exagération, donc l'ultime, enfin, c'est la mort. D'ailleurs, c'était une personne de notre département. C'était une personne qui était sortie pour la journée, pour s'amuser, etc. Puis, il n'est plus. Et combien de personnes étaient dans la voiture avec lui? Je ne sais pas. Dès le commencement, dès l'aube de l'histoire humaine, il y a cette triste réalité de la mort. Il y a premièrement la séparation spirituelle d'avec Dieu. Hein? Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, le jour que vous mangerez de fruit de cet arbre, certainement, vous mourrez. Mais on voit bien qu'ils sont encore vivants. Donc, que voulait-il dire? Il voulait dire qu'il y aura, à partir de ce moment-là, une séparation par rapport à Dieu. Il n'y aura plus la communion qu'ils avaient auparavant. Cette séparation spirituelle, donc la mort spirituelle, que Adam et Ève ont appropriée par leur acte de transgression, mais aussi qui est communiquée à toute personne dans la race humaine. Et c'est pour cela qu'il faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut recevoir de Dieu le renouvellement de votre esprit mort et que cela soit donc transformé en esprit vivifié, un esprit rendu vivant. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Et verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc le fait que Christ est mort pour le péché du monde entier veut dire que le monde entier est dans le péché, donc mort à cause des péchés. Et ayant besoin d'un sauveur. Mais il dit aussi dans le verset 15, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est-à-dire que quand on reçoit cette nouvelle vie de la part de Dieu, on ne veut plus vivre égoïstement pour satisfaire nos désirs naturels, comme auparavant, mais vivre pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour exprimer, pour propager, on va dire, le bien autour de nous. Donc, la séparation spirituelle, donc cet esprit mort dont j'ai mentionné, n'est que temporelle. ça peut devenir éternel, une séparation éternelle par rapport à Dieu. Mais c'est pas obligatoire. Et c'est pour ça, donc, qu'on peut faire disparaître cette séparation en se convertissant à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Mais il y avait aussi cette autre chose qui s'est passée, donc, chapitre 4, quand Abel était tué. Et en lisant à travers chapitre 5 de la Genèse, on trouve que toutes les personnes, sauf Enoch, toutes les personnes mentionnées, et puis à la fin du paragraphe, il dit « puis il mourut ». Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Il y en a qui appellent ça le cimetière de la Bible. Hein? Parce que chacun qui est né, eh bien, il va mourir. Et donc, il faut faire face à cette réalité, c'est que la mort est universelle. Chaque personne va mourir. Donc, autant que la naissance est un événement joyeux qui touche de nombreuses personnes, hein? Quand un bébé naît, eh bien, il y a beaucoup de monde, il y a un petit bébé, joli, etc. Hein? Toute la famille vont peut-être même faire la fête. Eh bien, autant que la naissance est un événement joyeux, autant la mort est un événement triste, de peine et de douleur qui touche de nombreuses personnes. Tôt ou tard, la mort touche chaque famille à maintes reprises. Hein? Il y a la femme qui a un faux couche. Donc des fois, une femme, psychologiquement, n'arrive jamais à monter au-dessous de cet événement. Hein? Il y a le jeune, là, l'autre jour, qui était, qui sait, peut-être tué. Donc à 17 ans, j'ai parlé le jour même, j'ai parlé à mon garagiste, et notre voiture est réparée, d'ailleurs, merci le Seigneur. Eh bien, j'ai dit que voilà, le garagiste, il est très maigre, il n'était pas si maigre il y a 3 ans, est-ce qu'il y a un problème? Alors, je ne sais pas, mais on a eu un très grand malheur il y a 12 ans. Et notre fils était tué il était écrasé par une car, il était sur une moto, et une car l'a tué. Donc, une bus. Et donc, elle dit peut-être que c'est toujours un chagrin de ça. Les grands-parents, ils disparaissent, n'est-ce pas? La femme, le mari, les parents, les enfants, la mort. Tôt ou tard, ça entre dans toutes les familles. Et c'est sûr que tous les membres de la famille, un jour, mourront. Et des fois, on entend, voilà, je suis le dernier. Hein? Aux informations, il y a quelqu'un qui a été rétabli, il n'est plus un criminel, ça fait 80 ans qu'on considérait cette personne un méchant. Et puis, les enfants et puis le petit-enfant ont fait des procès. Et puis maintenant, il est le dernier de la famille. Et il a fait en sorte que son grand-père soit réhabilité. Hein? Donc, la mort, ça vient. Êtes-vous préparé? Non, on y pense de temps en temps. Bon, Étienne est là-bas. Oh, bon, pour vous que rien n'arrive, n'est-ce pas? Guillaume est là-bas et tes enfants sont au sud de la France. Enfin, on y pense. Hein? Mon père, la dernière chose qu'il m'a dit, c'est « Billy, on ne va pas vivre pour toujours. » Non, il sait que peut-être la prochaine fois quand je vais aux États-Unis, il ne sera plus là. Hein? Parce que dans la famille, la mort arrive. Êtes-vous prêt pour cet événement? Ou pour ces événements? Parce que des fois, c'est plusieurs à la fois. Et puis en plus, des fois, la personne ne meurt pas. Et la vie est peut-être même pire que la mort. Hein? Si la personne est paralysée, si la personne est dans un état de végétal, argentant, et par là, je parle simplement du fait de la mort, mais comment est-ce que ça survient? Est-ce que c'était un crime? Est-ce que c'était une maladie? Bon, à Argentan, il y a une dame qui, on le voit, elle est âgée, et elle a deux bras qui se terminent à mi-chemin. Comment ça s'est arrivé? Eh bien, ses parents, le papa ou la maman, je ne sais plus, mais on m'a raconté l'histoire, les parents étaient ivres et ont jeté dans le feu. Et donc, ses mains étaient brûlées, n'existent plus, voilà. Et ce bébé, donc petite bébé, a dû grandir sans les mains. Hein, à cause de la méchanceté, donc j'ai dit, des fois, la mort est peut-être souhaitable vis-à-vis de misère que la personne va survivre toute la vie comme ça. Donc c'est triste. Mais ce que j'ai observé dans ma petite vie, c'est que souvent, et bien souvent, la réalité de la mort déstabilise les chrétiens. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas déstabiliser les chrétiens. Nous, surtout, nous connaissons que la mort est là. Vous savez, aux États-Unis, ces filles qui étaient tuées, eh bien, cet homme qui avait pris les otages, donc il allait commencer à tuer, eh bien, une jeune fille de 13 ans qui dit, tue-moi en premier. Parce que, donc on nous raconte par un des survivants, qu'elle voulait gagner du temps pour les autres filles. Et puis sa sœur dit, tue-moi en seconde. Sa sœur a dit ça. Et il y a un grand calme. Parce que ses enfants, donc toutes les filles, elles avaient confiance en Dieu. En dépit de cette misérable circonstance que cet homme allait les tuer tous. Ou toutes. Donc, ça ne devrait pas déstabiliser les chrétiens. Deuil, oui. Être triste quand on perd un bien-aimé. Évidemment. Mais désespoir, non. C'est pas à nous, les chrétiens, de tomber dans le désespoir à cause de la disparition d'un de nos bien-aimés. Et là, je dis ça en français, disparition, parce que nous savons que la personne n'est pas disparue, mais la personne est endormie. C'est le mot que la Bible utilise, endormie, parce que nous savons que nous allons récupérer la personne, on va la revoir dans la vie après la mort. Oui, la finalité de la mort, est horrifiant à ceux qui n'ont pas l'espoir en Jésus-Christ. Mais le croyant peut se munir de sa foi. Premièrement, nous savons que Christ est mort. Donc, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que mon enfant qui est mort. Mais que le Christ, il est mort, il est passé par cette chose-là. Ce n'est pas joyeux. Hein? Faut pas voir comme ça. Mais c'est une réalité. Et le Christ a expérimenté cette chose-là. Mais aussi, il est revenu à la vie. Et on peut voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, donc le frère, les sœurs en Christ, les membres de la famille, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oh, les non-croyants. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc c'est sous-entendu dans cette phrase que nous allons les reconnaître. Nous allons revoir ces personnes. Aussi, vous savez, Dieu, le Dieu que nous connaissons, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Et donc, cette omniscience de Dieu est pour nous une consolation. Une consolation parce que il n'y a rien qui l'échappe. Parce qu'il est au courant de tous les détails. Et parce que nous savons que Dieu, même s'il y a des circonstances tristes et néfastes, Dieu, dans son grand plan, il vise le meilleur, le bien ultime à la fin. Donc on peut savoir que Dieu a permis cette chose, mais ce n'est pas la fin. Il y a encore d'autres choses par la suite qui sont, on va dire, agréables et bénéfiques. bien que sur le champ, n'est-ce pas, on peut être triste. Hein? Donc, ces vérités-là que je viens d'exprimer, donc n'enlève pas les douleurs, n'enlève pas les douleurs de la mort de nos bien-aimés, mais elle nous donne de l'espoir pour l'avenir. Et le dernier mot, c'est que, comme j'ai déjà dit, la résurrection, Jésus est ressuscité. Donc, Dieu nous a créés non pas pour mourir, mais pour vivre. Et donc, c'est à chacun de choisir qu'il veut vivre. C'est vrai que nous allons passer par la mort physique, mais ce n'est pas obligatoire que nous entrons dans la mort spirituelle et éternelle, séparés, loin de la présence de Dieu et de toute la bonté, la beauté, la bienfaisance et les joies et toutes les choses qui découlent de la nature de Dieu. Pourquoi se séparer de tout ça pour l'éternité? Quand on a simplement à choisir que oui, je veux vivre, et donc d'accepter Jésus-Christ et avoir les bénéfices que Dieu nous propose, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai voulu entamer ce sujet, c'est triste, moi j'ai pas ou d'enfant ou de proche, le plus proche c'est ma tante qui est morte cette année passée, mais j'ai pas de ma famille tout proche qui est morte, et tant mieux. Mais je sais que chacun de mes enfants mourra un jour. Sophie va mourir, moi je vais mourir, mes parents vont mourir, mes soeurs vont mourir, mes neveux et nièces vont mourir. Comme nous aussi, nous allons tous mourir si le Seigneur ne revient pas avant. Et nous voulons être préparés. Nous voulons avoir confiance en Dieu d'avance, n'est-ce pas? De pouvoir affronter cette grande tristesse. Amen. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole et cette réalité que nous devons attendre, pas avec une joie, mais certainement avec tristesse, mais Seigneur, que tu nous fortifies et que tu nous encourages face à le pire des circonstances. Et nous savons que la séparation semble comme une finalité, mais c'est seulement temporaire, dans l'optique que nous allons revoir nos bien-aimés qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie que tu aides à chaque parent de bien élever leurs enfants, que les parents puissent s'entendre sur la discipline et sur les divers aspects de la vie pour que leur exemple soit pas mauvais, mais bénéfique pour comme un modèle pour les enfants. Et Seigneur, que tu veilles aussi sur la santé et les déplacements de nos enfants dans les questions scolaires et toutes ces choses, afin que nous ne soyons pas obligés d'affronter cette question de la mort pas trop tôt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse.